Voilà, la dame me dit que je peux commencer à enregistrer. Donc, nous continuons notre parcours sur les sacrements de l'initiation chrétienne. Je suis heureux de vous retrouver. Merci d'être là. C'est pas évident à nouveau le soir, suivre un cours de théologie. Pas tout le monde le fait, hein, je vous fais remarquer. Et donc, on va essayer de reprendre ce que nous avions pas terminé tout à fait la dernière fois. Notamment, nous restons encore une partie du cours sur l'évolution des rites de l'initiation tels qu'ils se sont mis en œuvre à partir du deuxième siècle jusque vers le cinquième siècle. Pourquoi cette périodisation, comme on dit? Parce que, effectivement, comme nous l'avons remarqué, j'espère, la dernière fois, les rites se mettent en place peu à peu. Nous le verrons aussi pour les autres sacrements, hein. Donc, nous avions essayé de montrer la dernière fois comment des gestes très simples, comme l'immersion, parfois l'imposition des mains, parfois avec précéder ces rites par accompagné par une parole nommant le Christ ou la Trinité. Parfois, on a vu tout au début la possibilité, la demande à ceux qui s'approchaient du baptême de jeûner, de prier. Nous l'avons vu dans certains textes. Bien, tout cela, qui était tout petit en vérité, devient assez important à partir notamment d'un document comme celui que nous avons, que je vous ai montré relativement rapidement. La tradition apostolique, et puis encore plus encore dans le texte d'Égérie, que j'espère que vous ayez pu lire. N'hésitez pas à le lire, ce texte qui est très beau. Donc, ce journal de voyage d'une pèlerine, d'une femme qui va à Jérusalem. Et donc, justement, je voudrais repartir de ça et vous montrer comment les rites se mettent en place le 4e et le 5e siècle. Pourquoi cette période importante, l'aboutissement de cette période est importante? Parce que, effectivement, c'est à ce moment-là, entre le 4e et le 5e siècle, que nous voyons se structurer précisément les rites de l'initiation. Voilà. Après, pour des adultes, naturellement, à cette époque. C'est à partir du 6e siècle, nous le verrons par la suite, ce soir, que il y a une mutation assez importante qu'on passera d'un baptême destiné à des adultes à un baptême destiné à des enfants. Ça va provoquer un petit tremblement de terre dans l'évolution de l'initiation qui va perdurer pratiquement jusqu'au Concile Vatican II. Et je vous dirai pourquoi et comment. Et donc, c'est au Concile Vatican II, voilà quel est le programme de notre séance de ce soir, qu'on commence à réformer, réviser, restaurer, vous pouvez employer tous ces verbes-là, les rites des sacrements et notamment à écrire des rituels, hein, des rituels qui sont donc en usage aujourd'hui dans notre propre Église catholique romaine. Voilà un peu ce que je vais vous montrer ce soir. Nous commencerons notamment ce soir par le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, qui est le plus important théologiquement. Je vous dirai aussi pourquoi en partie. Voilà. Et donc, je commence à partager l'écran. Attendez. Voilà. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de ce schéma, de ce tableau? Je vais peut-être le diminuer un peu. J'ai voulu donc vous présenter ce tableau simplement parce qu'il nous permet effectivement de voir quelle a été cette fixation dont je vous parlais au IVe siècle. Ce tableau-là présente de manière ramassée, un peu synthétique, les rites de l'initiation chrétienne que l'on célébrait à Jérusalem et que l'on célébrait à Milan. J'ai voulu quelque part vous montrer la partie orientale de l'Empire romain au IVe siècle, une ville comme de la partie orientale de l'Empire romain comme Jérusalem, et une ville de la partie occidentale de l'Empire romain. Ces deux villes vont être illustrées par deux grands évêques dont nous avons effectivement, sont parvenus jusqu'à nous de ces deux évêques, leur prédication, notamment la prédication qu'ils faisaient aux catéchumènes et aux néophytes, c'est-à-dire à ceux qui se préparaient au baptême et devenaient chrétiens. Donc ce sont des documents extrêmement riches parce que c'est par cette prédication que nous pouvons comprendre, savoir comment les rites de l'initiation étaient célébrés à cette époque. Alors, je vais grossir le texte. Attendez, voilà. J'espère que ça marche comme ça. Voilà, vous le voyez bien?
Oui, merci.
Vous avez la rivière? Voilà, très bien. Et donc, dans ces villes, Jérusalem, Milan, mais aussi on peut dire Antioche, Marseille, Lyon, qui sont des villes quand même dans lesquelles l'évangélisation, la première évangélisation est arrivée, dans toutes ces villes, à partir du 4e siècle, on constate que le processus d'initiation, c'est-à-dire les sacrements célébrant l'initiation chrétienne, se structure de la même manière. Se structure de la même manière. Alors, il y a plusieurs raisons qui amènent à ça, qui conduisent à ça. Tout d'abord, la raison la fondamentale, la plus importante, c'est que en 313, retenez cette date comme une clé de lecture, même pour les autres sacrements, c'est en 313 que Constantin promulgue l'édit dit justement de Constantin, c'est-à-dire l'édit permettant aux chrétiens de célébrer en plein jour leur propre religion. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir de 213, les églises chrétiennes éparses dans le monde connu de l'époque peuvent effectivement célébrer la liturgie et donc les premiers sacrements que nous connaissons sans avoir le problème que leurs églises soient confisquées ou que les chefs des églises soient mis en prison ou que les chrétiens tout court soient martyrisés, comme cela advenait les siècles précédents. Pas seulement l'Église, la religion chrétienne est reconnue comme religion, une des religions de l'État, ou disons permise par l'État, mais en plus, l'empereur lui-même, à cette époque, se charge de construire des églises, notamment des basiliques, quand je dis églises, des grandes basiliques pour les chrétiens. Je vous fais remarquer que l'une des toutes premières églises, par exemple, à Rome, est celle de Saint-Jean du Latran. Ce n'est pas celle de Saint-Pierre, hein, on pourrait penser à ça, mais c'est d'abord Saint-Jean du Latran, puis d'autres basiliques, et notamment à Jérusalem, dans le lieu même de la mort et de la résurrection du Christ, il va construire, toujours Constantin,
Ah, ça y
une
est,
église. Voilà,
attendez.
si vous pouvez éteindre le micro, merci. Va construire Constantin une église sur le lieu même de la crucifixion du Christ, que l'on appelle à cette époque le martyrium, hein, donc peut-être je vais vous l'écrire. Hein. Alors, je vais prendre un autre document. Voilà, je vais enlever ça. Donc, le martyrium, vous l'avez retrouvé dans le texte d'Égérie, elle parle de l'église du martyrium. Et l'autre, juste à côté, en vérité, derrière l'abside du martyrium, que l'on appelle l'anastasis. Ces deux églises sont rien d'autre que, justement, les basiliques que Constantin fait construire sur le lieu de la crucifixion du Christ. On dit même que sa mère Hélène aurait découvert la vraie croix. Et donc, ça vient de là, toute l'histoire, le récit de la construction de cette église. Et l'autre église, l'Anastasis, qui veut dire résurrection, construite sur le lieu même du tombeau du Christ. Alors, en passant, entre parenthèses, je vous ferai remarquer le beau nom que qu'on donne à l'église où le Christ a été martyrisé, hein, a été crucifié, c'est le lieu de son martyr, c'est le lieu de son témoignage. Le martyr, hein, le martyr, le lieu où on fait mémoire du martyr, du témoignage du Christ sur la croix. Eh bien, Égérie parle de ces deux églises, mais dans tout le monde connu de l'Empire à cette époque-là, les villes célèbrent dans des lieux de culte selon une structure qui on peut reconnaître dans toutes ces églises-là, dans toutes ces églises. Alors, j'ai pris comme exemple Jérusalem et Milan, la partie orientale et la partie occidentale de l'Empire. Et vous le voyez, la structuration, le processus d'initiation se structurait en trois grands moments que j'ai marqués par des caractères gras. Une préparation lointaine, je vais y revenir, une préparation prochaine et une initiation sacramentelle. Vous voyez, trois moments fondamentaux qui sont étalés dans le temps, je vous montrerai dans quel temps. Je commence donc du commencement et vous montrer que, effectivement, qui était concerné par ce qu'on appelle une préparation lointaine. Pourquoi on l'appelle lointaine? Dans cette préparation, pour cette préparation, à cette préparation, étaient concernés tous les catéchumènes qui n'avaient pas encore donné leur nom pour être baptisés à Pâques. Et donc, ce sont ces catéchumènes qui, effectivement, assez souvent ou la plupart du temps, restaient catéchumènes toute leur vie et parfois se faisaient baptiser sur le lit de mort, juste avant de mourir. Et donc, il y avait quand même une célébration d'accueil, c'était donc des adultes, hein, je vous ferai remarquer, et donc cette préparation qui est lointaine par rapport au baptême avait une certaine durée. On sait que dans les rites de tradition latine, c'est-à-dire dans la partie occidentale du rite, le catéchumène est accueilli par un signe de croix, on signe sur son corps un signe de croix. Augustin, le grand Augustin d'Hippone, rappelle dans ses confessions d'avoir été signé de cette croix et puis d'avoir abandonné l'Église pendant toute sa vie jusqu'au jour où il va être effectivement initié, je le rappelle, par Ambroise lui-même, c'est-à-dire l'évêque de Milan. Augustin, ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais il va être initié à Milan par Ambroise, lui, Augustin, qui est plutôt d'Hippone, de l'Afrique du Nord. Mais c'est dans un de ses voyages qui entre dans l'église de Milan, dans la basilique de Milan, et qui est saisi par la liturgie, et donc il demande à être baptisé dans l'église catholique. Voilà. Alors, entendez le mot catholique au sens de l'Église qui adhérait au Grand Concile, naturellement. Ne pensez pas à l'Église catholique aujourd'hui. Ces personnes qui restaient longtemps catéchumènes s'appelaient effectivement catéchumènes, catéchumeni en latin, catéchumenoi en grec. Et donc, ils recevaient généralement une formation générale au sein même de la synaxe eucharistique. Qu'est-ce que dit le synaxe? Synaxe, je vais vous le marquer. Synaxe, syn, a, axis. C'est un mot grec qui veut dire aller avec. Donc, Sun, dire avec. Axis vient du verbe ago, aller. Donc, être réuni, se réunir avec. Se réunir avec. Et donc, effectivement, il recevait une formation générale au cours de la célébration de l'Eucharistie, pour nous entendre, à laquelle il pouvait participer jusqu' pendant toute la liturgie de la parole, mais nous le verrons aussi pour l'Eucharistie, mais il devait sortir au moment où la partie eucharistique commençait. Alors, il recevait cette formation générale et catéchétique qui venait de la prédication des évêques dans les différentes églises, de l'écoute de la parole de Dieu, des prières faites dans les assemblées, mais ne pouvait pas participer à la deuxième partie de l'Eucharistie. Alors, sachez, et ça nous surprend toujours aujourd'hui, que dans une église, dans une ville de cette époque, comme Jérusalem et Milan, l'Église était composée majoritairement de catéchumènes. Les fidèles, c'est-à-dire ceux qui avaient été baptisés, étaient minoritaires par rapport aux catéchumènes. Les gens préféraient rester catéchumènes toute leur vie, assez souvent, plutôt que de se faire baptiser. Pourquoi? Et vous le comprendrez même par la suite. Parce que à cette époque, si après le baptême on tombait dans un péché grave, les péchés graves qui étaient considérés étaient le meurtre, l'apostasie et le divorce, c'est-à-dire le fait de ne pas vivre le mariage jusqu'au bout, mais ces trois péchés, considérés comme graves, amenaient à l'excommunication des baptisés. Et donc, ou bien, il n'y avait pas que ça, mais aussi la vie chrétienne, la vie d'un baptisé, comportait des exigences telles que la plupart des catéchumènes préféraient justement vivre un christianisme léger, si je peux dire, et ne pas être engagé dans la vie chrétienne. Jean Chrysostome, notre grand évêque, c'était un évêque de Constantinople, va appeler ces chrétiens les tièdes, donc ceux qui ne se décident pas trop. Voilà. Et donc, voilà pourquoi on l'appelle préparation lointaine, parce qu'on est loin du moment où on va célébrer le baptême. Par contre, si parmi ces catéchumènes, il y en avait qui voulaient être baptisés, ils devaient déposer leur nom auprès d'un registre dans les différentes églises, dans une cérémonie assez solennelle, juste au début du carême. Juste au début du carême. Et donc, ils déposaient leur nom, accompagné de parrains et de marraines qui devaient certifier leur manière de vivre. Et cela leur permettait d'entrer dans le processus de préparation prochaine, prochaine par rapport au baptême, par rapport à Pâques, en sachant que si le nom était déposé comme si c'était ce mois-ci, si vous voulez, entre janvier et février, après les fêtes de la théophanie, du mystère de l'incarnation, généralement, on commençait, les évêques, on a pas mal d'homélies de ces évêques de cette époque, implorant les catéchumènes de donner leur nom pour se faire baptiser. C'était vraiment un problème pastoral à l'époque, hein, parce que les gens avaient tendance à ne pas se faire baptiser. Et donc, cette préparation prochaine, destinée du coup à ceux qui avaient donné leur nom, comportait ce type de ritualité que j'essaie de vous décrire. Alors, vous voyez, quand je mets une expression et à côté vous avez id, ça veut dire idem, c'est-à-dire la même chose. on a la même chose soit à Jérusalem qu'à Milan. Par contre, quand il y a un changement, je vous mets qu'est-ce que ça pouvait changer. Voilà. Donc, on sait que cette préparation, donc, je le répète, se faisait pendant le carême. J'insiste et je voudrais vous rendre attentif à ça. Parfois, on pense que, comment pour dire ça, que le carême, on l'a créé pour les catéchumènes. En vérité, ce sont les catéchumènes qui ont suscité le carême. C'est le fait que la catéchumène devait être catéchisée pour les sacrements de l'initiation, pour le baptême, hein, que on pense le temps du carême comme un temps de préparation. Vous voyez, c'est très important cela. L'action liturgique, la préparation liturgique, conduit à former, structurer un temps liturgique. Donc, c'était pendant le carême. Et donc, comme je vous disais, au début du carême, à Jérusalem, et Jéry, si vous vous rappelez et vous lisez le texte que je vous ai donné la dernière fois, à Jérusalem, le carême durait 7 semaines. Donc, il commençait un peu plus tôt, et puis, avec des semaines de préparation, et puis les 40 jours que l'on connaît. Les catéchumènes donc, qui suivaient cette préparation prochaine, on les appelait photizomenoi, c'est un terme grec qui veut dire ceux ou celles qui doivent être illuminés, qui doivent être illuminés. Donc, vous vous rappelez que Justin, dans un des textes qu'on a donné la dernière fois, dit ce bas, nous l'appelons illumination, n'est-ce pas ? Photismos en grec. Eh bien, les catéchumènes vont prendre dans la partie orientale, dans le monde grec, cette expression-là. Ceux qui doivent être, donc ils ne le sont pas encore, ils sont de manière potentielle, doivent être illuminés. Par contre, dans la partie occidentale de l'Empire, là où on emploie la langue latine, on appellera ces catéchumènes des élus, electi, des élus, ou bien competentes, ça veut dire ceux qui frappent à la porte, ceux qui demandent à entrer quelque part, voyez, ceux qui sont là pour demander de rentrer dans l'Église. Cette préparation consistait en une intense croissance spirituelle et morale, c'est-à-dire il y avait toute la période était une période, pour la dire avec un mot que vous connaissez, c'était une période de conversion. Le catéchumène devait se convertir, quitter les manières de vivre qu'il pouvait avoir auparavant et entrer dans une manière de vivre chrétienne, justement. Et donc, cette intense croissance spirituelle et morale advenait par des gestes, des moments précis, notamment par le jeûne et la prière. Nous l'avons déjà trouvé cela dans les documents, tous les premiers documents qui parlent du baptême dans l'Église, on parle bien du jeûne et de la prière. Ce sont des pratiques qui remontent aux pratiques du Premier Testament, de l'Ancien Testament, et donc qui étaient proposées naturellement pas que aux catéchumènes à cette époque-là, mais aussi aux fidèles qui vivaient le carême. À cela, on peut effectivement ajouter dans la partie occidentale de l'Empire l'abstinence ou encore l'aumône. Les évêques à cette époque parlent de l'importance de l'aumône, de faire les offrandes, voilà, pour les pauvres naturellement. Alterner au jeûne et à la prière, il y avait des catéchèses quotidiennes structurées, et Géry en parle, si vous avez lu le texte, vous reconnaîtrez cette structure. Cette catéchèse est structurée par l'écriture, c'est-à-dire l'évêque n'avait pas de catéchisme dans ses mains, mais il avait la Bible, il connaissait la Bible. Et donc, c'est par la Bible qu'il faisait la catéchèse, dont la structure était donnée par le symbole de foi, c'est-à-dire par le credo. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que c'est en 325, par un concile, le concile de Nicée, que va être promulgué le premier credo œcuménique officiel, c'est-à-dire issu d'un concile œcuménique, ce qu'on appelle le symbole de Nicée, auquel plus tard, en 381, on va ajouter, on fait quelques ajouts concernant l'Esprit Saint, et donc le symbole sera appelé, on l'appelle encore aujourd'hui, le symbole de Nicée-Constantinople, n'est-ce pas? Eh bien, l'évêque se servait du symbole de foi et il, comme un canevas, il faisait sa catéchèse. Un jour, par exemple, il commençait par « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Et pendant des heures, il expliquait ce que cela voulait dire en se servant des Écritures, généralement des Écritures. Ouais. À cette époque, c'est surtout les Écritures. Puis, au fur et à mesure que la prédication avance, les évêques vont se servir de ce que les autres évêques ont dit. Mais à cette époque, c'est surtout sur les Écritures. On sait aussi que, je ne l'ai pas marqué là, mais que vers la fin du carême, à cette époque, on expliquait aussi le Notre Père, la prière du Seigneur. Donc, c'est de la même manière, verset après verset, Notre Père, et l'évêque expliquait qui est aux cieux, il expliquait pendant des heures et des heures qui est aux cieux, sois sanctifié ton nom, ainsi de suite. Voilà, vous voyez comment c'était la pratique. Cela sera fait aussi, je vous le dirai tout à l'heure, pour la catéchèse mystagogique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, catéchèse, et les catéchèses, qu'on appelle catéchèse aussi en Occident, dans les villes de l'Occident. Alors, je vous fais remarquer, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais si je vous l'ai dit, ça ne fait pas de mal que je vous le redise, le mot catéchumène vient de catéchèse. Vous entendez, catéchèse veut dire faire retentir dans les oreilles. Faire retentir dans les oreilles. Et donc, ceux qui suivent la catéchèse vont être appelés catéchumènes, parce que c'est ceux qui reçoivent la catéchèse. Ça, cette expression-là sont beaucoup plus anciennes que cette époque-là. Déjà, Tertullien, au IIIe siècle, appelle les candidats au baptême des catéchumènes. Est venu vraiment, à nouveau, ce mot est venu de la pratique catéchétique à cette époque. Et donc, je disais, ces catéchèses quotidiennes vont être alternées par des exorcismes quotidiens. Exorcismes quotidiens. Exorcisme, à nouveau, c'est un mot. Alors, quand je dis en souriant, les exorcismes ne sont pas le film L'Exorciste. Donc, effacez tout l'imaginaire que nous avons par rapport à ça. J'essaie de vous expliquer à quoi consistaient les exorcismes. Les exorcismes avaient leur raison d'être à cause de la vision de l'homme de cette époque-là. À cette époque, que l'on soit croyant ou non croyant, n'importe, on pouvait bien croire à des dieux ou ne pas croire du tout à des dieux, mais généralement on croyait à des dieux, on pouvait croire au Christ. Dans les deux cas, on imaginait le monde comme structuré par le ciel d'en haut, la terre d'en bas, les hommes étant sur la terre, les dieux étant dans les cieux, et entre les hommes et les dieux, plein d'esprits, ou d'esprits bons, ou d'esprits mauvais, qu'il fallait donc ou chasser s'ils étaient mauvais, ou invoquer s'ils étaient bons. Voilà. Et donc, on avait cette perception que tant que l'invocation de Dieu n'avait pas été faite sur les personnes, et donc sur ceux qui s'approchaient de la foi, surtout étaient baptisés, les catéchumènes, celui qui s'approchait du baptême, devait être quelque part préservé, protégé, purifié de ces esprits. Voilà un peu. Là, il faut bien contextualiser cette vision-là à une époque précise où il y a une vision du monde. Et donc, on fait des exorcismes quotidiens, j'insiste beaucoup, alternés par la catéchèse. Et Géry le dit, hein, les catéchumènes ici, dit-elle, à Jérusalem, sont exorcisés de bon matin avant la catéchèse et puis advient la catéchèse. Je vous fais remarquer, entre autres, que même des laïcs pouvaient faire ces exorcismes. Les exorcismes n'étaient pas réservés aux ministres ordonnés, mais des laïcs, des docteurs, au sens d'enseignants qui pouvaient enseigner la catéchèse, pouvaient effectivement exercer les exorcismes. Sachez, nous le verrons dans le rituel, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que certains exorcismes et bénédictions du rituel d'initiation chrétienne des adultes peuvent être faits par les accompagnateurs des catéchumènes. En Occident, donc, ces exorcismes, il n'y a pas que des exorcismes, mais on a la pratique aussi de faire des onctions, de oindre le corps des catéchumènes, et on connaît à Rome, notamment à Rome, ce qu'on appelle des scrutins, le deuxième, le troisième et le quatrième dimanche de carême. Hein, on l'a aussi aujourd'hui, mais nous le verrons de quelle manière. Scrutin, à nouveau, d'où vient ce mot? D'où vient ce mot? Scrutin, ne pensez pas dans ce contexte à l'élection du pape du président de la République. Scrutin vient du mot latin scrutari, être scruté, être regardé, vivre un discernement. Hein. Vous vous rappelez ce passage d'un psaume qui dit tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, donc tu me vois. Voilà. Donc il y a cette idée de la présence de Dieu, habitant peu à peu le cœur des catéchumènes. Donc ces scrutins, nous verrons de quelle manière se font aujourd'hui, étaient faits. Là, je suis en train, vous voyez, de suivre le déroulement du carême. Et vers la fin du carême, il y avait ce qu'on appelle la traditio simboli, hein, qui veut dire la transmission, la tradition du symbole. Dans une séance solennelle, l'évêque transmettait de sa propre bouche le credo aux catéchumènes après l'avoir enseigné, morceau par morceau, stick après stick, et il leur donnait tout entier. Et les catéchumènes avaient une semaine, voire deux semaines, pour pouvoir redonner le credo. Et donc, on appelait cette liturgie, ce moment rituel, on l'appelait reditio simboli, la reddition, le fait de restituer le symbole. Le catéchumène, les différents catéchumènes, devaient réciter eux-mêmes, par cœur, le symbole, pas seulement devant l'évêque, hein, devant toute la communauté ecclésiale réunie pour ce moment. Alors, je vous ai mis qu'on sait qu'à Milan, ça devait se faire le dimanche des Rameaux, c'est la cérémonie de la tradition symbole, et que quelques jours après le dimanche des Rameaux, était redonné le symbole. Donc, vous voyez que cette préparation, comme je disais, avait une finalité plutôt, on pourrait dire, spirituelle, voire ascétique, au sens qu'elle comportait aussi des exercices corporels, comme le jeûne, comme la prière aussi. Voilà. Après ces rites, on s'approchait d'un temps de Pâques, de la fête de Pâques, et on procédait au troisième moment de l'initiation, de ce processus d'initiation, qui est l'initiation sacramentelle. L'initiation sacramentelle. Alors, c'est très important de le souligner, cela advenait la nuit de Pâques, ça se faisait la nuit de Pâques. Sachez qu'on a le témoignage, on sait que dans une église donnée, Jérusalem ou Milan ou Constantinople ou Antioche, il pouvait avoir pour la nuit de Pâques 500, 600 catéchumènes adultes. C'est-à-dire tous les catéchumènes à qui ils pouvaient avoir décidé d'être inscrits pour le baptême. Et dans la nuit de Pâques, on commençait par la renonciation à Satan et l'adhésion au Christ. Vous voyez bien que cette renonciation trouve tout son sens quand, pendant tout le carême, les catéchumènes ont vécu des exorcismes quotidiens. Alors là devient, on pourrait dire, le choix final ou décisif du catéchumène qui va renoncer à Satan et adhérer au Christ. Parfois, les rites prenaient une ampleur telle qui pouvait être remarquée. Je pense à Jérusalem, par exemple. Cyril nous rapporte que le catéchumène devait, pour renoncer à Satan, se tourner vers l'ouest, donc faire dos à l'est où il y a l'autel et l'abside de l'église, et donc renoncer à Satan et se tourner vers l'est, vers l'abside, vers l'Orient, pour adhérer au Christ. Donc il y a toute une mise en scène au sens beau du terme, une théâtralisation, à nouveau au sens bon du terme, une ritualisation importante. En Occident, on va avoir un rite particulier qu'on appelle l'aperitio, l'ouverture ou l'effeta. On l'a encore aujourd'hui, effeta, vous vous rappelez, c'est un mot qu'on retrouve dans les évangiles. Jésus, pour ouvrir les oreilles et la bouche d'un surmoué, dit effeta, ouvre-toi. Et donc, notamment dans la partie occidentale de l'Empire, dans ces églises d'Occident, on a ce rite, et puis naturellement, la renonciation à Satan et l'adhésion au Christ. On procédait après, le catéchumène devait se dépouiller de ses propres vêtements, rester complètement nu. Hein? Ce qui fait que, je vous fais remarquer, c'est à cette époque qu'on a le témoignage d'un ministère diaconal de femmes. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons de convenance, vous pouvez bien le comprendre, les diacres hommes assistaient les hommes dans leur nudité devant se plonger dans le baptistère, et les diaconesses femmes assistaient les femmes du moment où elles se dépouillaient, étaient ointes et rentraient dans la piscine baptismale. Donc, dépouillement des vêtements qui, à ce soir, est commenté par les évêques comme étant la condition du premier homme et de la première femme, la nudité d'Adam et Ève. Hein, voilà. Donc, ça, on vient de loin pour pouvoir renaître. Hein, voilà. Après que le corps était complètement nu, on oignait le corps tout entier avec de l'huile exorcisée. Quand je dis oignait, pensait, on massait tout le corps avec l'huile. Donc, on avait cette perception de la lutte qu'il fallait avoir en s'immergeant dans le baptême, dans l'eau du baptême. Ici ou là, à n'importe à quel moment, on bénissait l'eau, avec la consécration de l'eau du baptistère. Et c'est à ce moment-là qu'on faisait descendre dans l'eau le catéchumène avec une triple immersion. Notamment en Occident, on connaît la formule « Je crois en Dieu le Père, en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint ». À cette époque encore, on connaît une formule par question et réponse. « Crois-tu au Père ?» « Je crois » et on l'immergeait. « Crois-tu au Fils ?» et il réémergeait. « Crois-tu au Fils ?» « Je crois » il était immergé. Il ressortait de la piste de l'eau. « Crois-tu à l'Esprit Saint ?»« Je crois » on l'immergeait. Et en se relevant, on terminait en Occident « Je crois en Dieu, le Père, en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. » Il y avait donc la remontée dans l'eau et une fois remontée, on chrismait, comme on dit en grec, avec le muron, la myrrhe, l'huile parfumée. Vous voyez qu'il y a une distinction à faire entre l'huile exorcisée, qui n'était pas parfumée, qui était du simple huile d'olive, et le Saint-Crème, le crème, qui était une huile parfumée. Alors, en Occident, remarquez, regardez, alors là, il y avait la chrismation à nouveau faite naturellement par l'évêque. Là, par contre, regardez, l'évêque, c'était l'évêque. Cette onction de la tête était réservée à l'évêque en Occident. Et depuis Tertullien, depuis le IIIe siècle, donc un peu avant Ambroise, on sait qu'on donne en Occident cette interprétation, on considère cette onction comme l'onction procurant l'Esprit Saint. C'est en Occident que l'on considère cela. Nous verrons que ça a des conséquences assez importantes. Après cette chrismation, donc, on revêtait les néophytes, du coup, ils ne s'appellent plus catéchumènes parce qu'ils viennent de renaître, d'être une nouvelle racine, néophyte, d'un vêtement blanc, et avec le vêtement blanc et parfois avec une lumière, on participait à la célébration de l'Eucharistie, à la synaxe eucharistique. Alors, j'ai oublié, vous comprenez, c'est important, Ambroise était moi, regardez, avant de remettre le vêtement blanc, après l'onction de la tête de l'évêque, à Milan, on avait l'usage de laver les pieds des néophytes. De laver les pieds des néophytes et après, on le revêtait du vêtement blanc. Donc, la synaxe eucharistique. Il faut penser que à cette époque, dans l'Antiquité, comment on peut dire, les pratiques les usages, voilà, plutôt de n'importe quelle ville dans l'Empire romain, étaient que quand il y avait une fête de l'Empire, la fête durait 8 jours. Ça y est. Et donc, les chrétiens adoptent à leur propre fête cette pratique et pendant les 8 jours qui suivent la fête de Pâques, qu'on appelle encore aujourd'hui l'octave de Pâques, la semaine de Pâques, à Jérusalem, mais aussi à Milan, on avait ce qu'on appelle une catéchèse mystagogique. Je vais reprendre mon crayon. Alors, désormais, vous êtes capable vous-même de dire hein, mystagogique. Vous voyez que ce mot est fait de 2 mots en grec, mysterion, le mystère. Et agogique vient du verbe ago, un peu comme on a vu axis, ouais, qui veut dire ago, conduire, faire entrer. Et donc, mystagogie ou mystagogique veut dire faire entrer dans le mystère. Hein? Faire entrer dans le mystère. Naturellement, le mystère que l'on a célébré, le mystère des sacrements que l'on a célébré. Je voudrais, avant de quitter ce tableau, vous montrer l'importance aussi architecturale de cette époque. Une fois que vous avez compris comment cela marchait, et vous montrer à quoi pouvait ressembler une église à cette époque. Ça, c'est une basilique, c'est la basilique d'Aquilée, qui comporte plusieurs strates. Alors, l'intéressant de cette église, c'est qu'entre autres, à Aquilée, Aquilée, c'est une ville qui se situe au nord-est de l'Italie actuelle. Vous pouvez même, si vous avez envie de faire un voyage, aller à Aquilée. C'est magnifique. Moi, je ne suis jamais allé, hein. Mais bon, je sais que c'est magnifique. On a fait des fouilles et on a trouvé, entre autres, dans ce complexe de la basilique d'Aquilée, des salles destinées aux catéchumènes au IVe siècle, pour la catéchèse, vous voyez. Eh bien, ce que je voulais vous montrer, c'est que la basilique, vous la voyez là, hein, c'est la basilique classique que l'on connaît, mais cette basilique avait en face, vous voyez là, le baptistère. Généralement, toutes les basiliques de l'époque du IVe et Ve siècle avaient distingué le bâtiment du baptistère du bâtiment de la basilique. Et alors, je vous fais remarquer une chose peut-être que l'on ne sait pas et qui vous fait comprendre l'importance de l'initiation baptismale. Le baptistère, à cette époque, on l'ouvrait qu'une fois par an. On l'ouvrait pour Pâques, pour la nuit de Pâques, pour le baptême des catéchumènes. Et 8 jours après Pâques, on le fermait. Ce qui faisait dire aux pères de l'Église, aux évêques, le baptistère est comme un ventre maternel. Il ne s'ouvre qu'une fois par an pour donner naissance au Fils de Dieu, au Fils de l'Église. Et donc, dans ce baptistère, si j'avais été baptisé, moi, Isaïa, au IVe siècle, je l'aurais vu qu'une fois dans ma vie, la nuit de Pâques pour mon baptême. Puis peut-être, si j'étais devenu parrain, j'aurais pu le voir encore en accompagnant des catéchumènes. Mais sinon, on le voyait, c'était vraiment unique comme bâtiment. Et donc, c'est là que, dans ce baptistère, la nuit de Pâques, pouvait rentrer simplement l'évêque, les presbytres, les prêtres qui assistaient l'évêque, les diacres, les parrains, la marraine et les catéchumènes. Les fidèles restaient dans la basilique en attendant que les baptêmes se fassent. Ça y est, imaginez 600 catéchumènes pour être baptisés, hein. Et donc, à la fin du baptême, revêtus de leurs vêtements blancs, les catéchumènes allaient rentrer dans l'église avec leurs cierges allumés, toute l'église s'illuminait, et le corps du Christ se constituait dans la basilique. Vous voyez ? Je voudrais maintenant, avant la pause, je vais distribuer aussi ce tableau. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ce tableau, voilà, essaye de rendre compte. Là, nous faisons un saut, accrochez-vous, parce qu'on fait un saut du IVe siècle à notre temps. Donc, du coup, il faut s'accrocher. Dans la colonne de gauche, vous voyez, là, comme ça, au moins la mienne, celle qui est là. Vous avez les différentes périodes, les différentes époques, 1er, 4e, 5e, 12e, 3e, 17e, et puis les différentes dates, jusqu'à 1960, après 1970, c'est-à-dire après le Concile Vatican II. Là, vous avez certaines informations que je vais vous donner. Et puis, vous avez la manière dont les trois sacrements d'initiation, baptême et confirmation, vont être agencés ou vont évoluer dans l'histoire. Nous sommes en train de revenir, si je peux dire, de ce cas de figure, c'est-à-dire entre le 1er et le 4e siècle, notamment le 4e siècle, on a une entrée en catéchuménat pendant le carême et à Pâques, la nuit de Pâques, on baptise, excusez-moi, on confirme et on eucharistie, ont fait participer à la première communion des adultes. Là, il est clair. Et cela se fait dans les villes, dans les grandes villes, comme nous avons vu. À partir du 5e siècle, qu'est-ce qui se passe? Je fais toujours remarquer qu'à partir du 5e siècle, la plupart des villes chrétiennes sont, la plupart des villes sont devenues chrétiennes. C'est la population, du point de vue sociologique, est devenue chrétienne. Et donc, il y a une impulsion de la mission à partir des villes vers les campagnes, c'est éloigné des villes. Et donc, on aura des usages propres à la ville et des usages propres à la campagne, aux périphéries, aimerait dire le pape François. Et donc, on voit là deux manières de faire. En ville, là où l'évêque réside, dans sa cathédrale, le baptême, les rites de l'initiation vont continuer à être donnés en carême, au cours de la veillée pascale. Et les sacrements qui sont donnés sont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, par l'évêque. L'initiation est précédée par l'évêque. À la campagne où l'évêque n'est pas présent, mais où l'évêque se rend de temps en temps, quand il peut, avec son cheval et son fioul d'huile, eh bien, surtout en Occident, qu'est-ce qu'on fait? Le baptême et la communion est donné généralement aux enfants à cette époque, à partir du 5e, 6e siècle, sans attendre Pâques. Et la confirmation est donnée plus tard, dès qu'on peut, quand l'évêque passe. C'est quelque chose, retenez cela, parce que vous remarquez tout de suite, j'espère que vous le remarquez, qu'il y a comme une sorte, il y a le commencement d'une sorte de désolidarisation des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Une ils ne sont plus unis comme sacrements. Et surtout, je parle bien de l'Occident, on réserve la confirmation à l'évêque. Je dis en Occident parce que je vous fais remarquer qu'en Orient, ce n'est pas le cas. En Orient, à la même époque, on permet aux prêtres de confirmer, pourvu naturellement qu'ils le fassent avec l'huile consacrée par l'évêque. Cela donne une beaucoup plus grande liberté au pastoral, je dirais, mais surtout permet que, avec la montée du pédobaptisme, c'est-à-dire le baptême donné à des enfants, les trois sacrements de l'initiation puissent être donnés aussi en même temps à des petits-enfants. Le phénomène, à partir du 5e, 6e siècle, du pédobaptisme, du baptême donné à des enfants, va conduire de plus en plus à ce que j'appelle une désolidarisation des sacrements et parfois, comme on le verra tout de suite, à un désordre, une non-mise en ordre des sacrements. Je vais le montrer peu à peu. On voit bien qu'à partir du 13e jusqu'au 17e siècle, on a généralement, voyez, on a le baptême à la naissance, juste après la naissance. Je vous rappelle que le problème du XIIIe siècle, c'est qu'il y a une grande mortalité infantile et donc on essaye de baptiser le plus tôt possible. Donc on baptise le plus tôt possible les petits-enfants. On confirme vers l'âge de 7 ans et on donne la première communion entre 10 et 14 ans à l'initiative des parents. La période 1640-1750 est la période qui suit le Concile de Trente, un grand concile en Occident, dans l'Église catholique romaine, qui va, comment dire, réécrire les rituels. Il va faire une vraie réforme liturgique, mais déjà à cette époque-là, il réécrit les rituels, il les structure et surtout il structure la catéchèse. Et donc, vous voyez quelle est la différence, c'est que désormais, on a toujours le baptême à la naissance. La confirmation va être donnée entre 7 et 10 ans, mais vous voyez, c'est à cette époque qu'apparaît le catéchisme. Et donc, pastoralement, il faut suivre le catéchisme pour accéder à la première communion, mais, et voilà un sacrement qui va apparaître, avant, il faut participer, il faut vivre la première confession. Là, je vous rappelle que nous sommes déjà dans la constitution du septenaire sacramentel, des sept. On a défini les sept sacrements. Donc, du coup, la confession va être retenue comme faisant partie, hein, du processus, disons comme ça, d'initiation vers la première communion solennelle, hein, qui couronne la catéchèse. Et cela advient à 12 ans, et vous voyez la différence, c'est qu'à l'initiative du curé, ce ne sont plus les parents, mais c'est le curé qui doit veiller sur le bon déroulement de l'initiation d'un enfant. C'est la responsabilité du curé. Entre 1750 et 1910, on voit même avancer la première confession avant la confirmation. On a toujours le même cas de figure, hein? Et puis avec la première communion solennelle, rien ne change à ce niveau-là. Par contre, regardez, entre 1910 et 1970, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à faire coïncider la confession et la première communion avant même la confirmation, donc à faire passer la première communion avant la confirmation, et à doubler, si je peux dire, la première communion qui est assez souvent privée, avec une communion solennelle, une profession de foi, qui, comment on peut dire ça, a quasi le rôle d'une confirmation, si vous voulez. Il faut professer sa foi de manière adulte. Et après le concile, on retrouvera, comment on peut dire ça? Vous voyez que c'est une sorte de chiasme, c'est-à-dire le point d'arrivée de ce tableau montre bien que nous revenons en gros à la case de départ, là où on a un baptême pour les adultes qui se fait par l'entrée en catéchuménat en carême avec le baptême confirmation chrétienne qui est donné la nuit de Pâques, et par contre un baptême destiné aux petits-enfants. Et donc, l'initiation des enfants va commencer à la naissance, par le baptême, avec un certain délai. Il n'y a plus besoin de baptiser tout de suite comme autrefois. On peut avoir la première confession et la première communion à 6, 9 ans. On a la catéchèse, on a la profession de foi vers 12 ans et on a la confirmation entre 12 et 18 ans. En gros, voilà. Ça dépend des situations pastorales et des églises, voilà. Mais vous le voyez bien qu'en vérité, c'est le rituel de l'initiation chrétienne des adultes qui, généralement, qui en principe, garde l'ordre originel des sacrements de l'initiation et leur cohérence. C'est pour cette raison, et nous y reviendrons après la pause, que le rituel d'initiation chrétienne des adultes est retenu du point de vue théologique comme le type du rituel pour comprendre ce qu'est le baptême et l'initiation chrétienne. Je ferme le partage d'écran et avant la pause, je vous demande si vous avez des questions. Oui, vous pouvez allumer votre micro.
Oui, ça y est.
Parfait.
Une chose que j'ai pas bien compris, peut-être c'était un peu vite pour moi. L'onction, elle est réservée à l'évêque, parce que l'évêque, c'est le seul à donner l'onction, parce qu'il reçoit l'onction.
Non, c'est parce que l'évêque est celui qui préside à l'initiation. Et celui qui veille au gouvernement d'une église est celui qui structure l'église, structure, qui préside à la communion d'une église, et celui, mais encore aujourd'hui, hein, c'est à l'évêque qui revient à la présidence des rites de l'initiation. Il devrait, théoriquement, il devrait être lui à présider. Puis ça ne se fait pas parce qu'il y a trop de lieux d'initiation. Mais sinon, c'est pour cette raison.
Merci.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
Oui, une question sur l'organisation, le baptistère qui est à l'extérieur de la basilique. Ça a duré combien de temps? Parce qu'il me semble qu'à Pise, le baptistère, il est en dehors de la basilique, mais il a été construit au 15e.
Tout à fait. 16e. À Pise, même à Florence, dans les villes italiennes, assez souvent, on retrouve encore des baptistères construits plus tard, effectivement. Alors, on les construisait peut-être, rappelez-vous, la Renaissance. Hein, donc, du coup, cet engouement pour la pratique ancienne, l'humanisme italien, donc du coup, le rêve d'un temps révolu. Hein, et donc, effectivement, la construction peut-être correspond à celle du début de l'Église, du 4e siècle, mais en vérité, on y baptise des enfants. Voyez, et même peut-être il est employé et non employé. C'est plutôt un bâtiment d'apparat, je ne sais pas comment dire, de revival architectural, vous voyez. Mais autrement, non. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment l'origine. Hein, donc du coup, on le retrouve encore, même en France. Hein, je pense au baptistère de Fréjus, de Riez, de Poitiers, vous voyez. Donc, tous ces baptistères étaient vraiment destinés que pour les catéchumènes la nuit de Pâques. Est-ce qu'il y aurait encore des questions?
Oui, vous avez parlé de lavement des pieds tout à l'heure.
Oui.
Et ce lavement des pieds a visiblement été sur un temps.
Oui.
Quel sens ça avait à ce moment-là?
Alors, général, Ambroise commente ce rite. Et il dit, c'est le rite de l'accueil. Le néophyte vient de sortir de la piscine baptismale et comme quand on accueille un hôte de marque, on lui lave les pieds.
Ah oui.
Vous voyez?
Oui.
Donc, ça perd la même signification que nous lui donnons le jeudi saint.
Oui, c'est ça.
Qui est plutôt une mimesis, voilà, du service, du geste de Jésus lui-même, qui indique le service quasi eucharistique, je dirais. Hein.
Oui.
Là, non. Là, c'était vraiment un geste de marque, comme dire, voilà, nous accueillons un nouveau hôte dans l'Église. Hein.
D'accord. Merci.
Mais c'est on a étudié cette question. Hein. On le trouve très rarement. On le trouve dans quelques églises en Occident. En Occident, oui. Notamment Ambroise, puis peut-être Aquilée, ces régions-là du nord de l'Italie.
Merci beaucoup.
D'autres questions? Alors, nous arrivons à 21h07. Je vous propose de faire une pause jusqu'à 7, ça fait 10, jusqu'à 20, 21h20. Une dizaine de minutes. À bientôt. 21h20. Voilà, voilà, nous recommençons. Vous m'entendez?
Oui, on vous attend bien.
C'est parfait, c'est parfait. Donc, nous allons continuer. Donc, nous quittons l'évolution historique. L'évolution historique, en vérité, vous l'avez compris, nous fait arriver à aujourd'hui, à la célébration de l'initiation telle que nous la vivons aujourd'hui. Et donc, je partage l'écran et nous allons regarder ensemble comment on la célèbre. Le plan que j'avais donné donc, est celui-ci, vous l'avez reçu, les sacrements d'initiation chrétienne, nous arrivons donc, et je vous propose de regarder ensemble les rituels qui sont à proprement parler des rituels de l'initiation chrétienne. Alors, nous en avons trois principalement, mais en France, nous en avons quatre. Donc, j'essaie de vous montrer. Le premier, il est indiqué là, c'est le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Je reviendrai sur ces dates-là tout à l'heure. Le deuxième rituel est le rituel du baptême des petits-enfants. Et le troisième rituel est le rituel de la célébration de la confirmation. Donc, en gros, vous avez des adultes, des petits-enfants, des adolescents, disons. Voilà, des adolescents. Mais, comme je vous disais, en France, il existe aussi un quatrième rituel qui doit être retenu comme rituel d'initiation chrétienne, qui s'appelle, je ne l'ai pas marqué ici, j'en parlerai pas, mais sachez qu'il existe, le rituel du baptême pour les enfants en âge scolaire. Le rituel du baptême pour les enfants en âge scolaire. C'est un rituel à part entière, naturellement vous l'avez compris, est destiné à ces enfants qui ne sont plus des petits-enfants, qui sont déjà en état de comprendre et qui peuvent recevoir une initiation quasi comme un adulte, c'est avec leur compréhension, intelligence. Ce rituel, en vérité, du baptême des enfants en âge scolaire, n'est rien d'autre qu'une partie du rituel d'initiation chrétienne des adultes. Donc, il a été prévu dans le rituel officiel. Je voudrais maintenant, une fois pour toutes, vous initier à la manière dont ces rituels ont été écrits. Et donc faire une petite histoire pour vous faire comprendre l'élaboration de ce rituel. Ah oui, je voulais vous montrer, je pourrais vous montrer aussi les autres. Le rituel ressemble à ceci, vous voyez. Donc c'est un livre. Je dis toujours, ces rituels-là ne sont pas cachés dans les sacristies. Si vous en avez envie, vous pouvez les acheter à la procure. Donc, tout le monde peut les avoir. Hein. Ce n'est pas réservé aux prêtres, c'est ça que je veux dire. Et même, je tire les oreilles aux prêtres, c'est souvent les prêtres ne connaissent pas ces rituels. Je ne dis pas tous, mais quelques-uns. Et c'est très mauvais, ça. Alors, c'est de là que j'ai tiré les photocopies, notes doctrinales et pastorales que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, comment on est arrivé à ce rituel? J'essaie de vous le dire rapidement, de manière qu'après, vous comprendrez ce que je vais vous dire, vaut aussi pour les autres rituels, pour le mariage, pour l'ordre, pour l'onction des malades, ainsi de suite. Je vous donne quelques dates. Le Concile Vatican II s'est tenu entre 1962 et 1965. Avant le Concile Vatican II, je l'ai nommé tout à l'heure, il y a eu un autre concile, le Concile de Trente, hein, qui, lui, donc au XVIe siècle, qui, lui, déjà avait, nous l'avons vu dans l'évolution des rites de l'initiation, avait édité des rituels, avait promulgué un catéchisme, donc il y avait des rituels qui concernaient le baptême, la confirmation, tous les sept sacrements, pour nous entendre. Mais le Concile Vatican II décide, pense, dans un changement d'époque, en entrant dans la modernité, nous sommes en 62, décide de réviser ces rituels pour le bien des fidèles. J'insiste beaucoup sur cela. Il ne le fait pas pour changer de mode, mais il le fait parce qu'il se rend compte que la liturgie n'est plus ou pas trop suivie par les fidèles, qui d'une part ne comprennent plus le latin et d'autre part ont des besoins autres du point de vue culturel, social. Et donc, je vous fais remarquer que le 4 décembre 1963, ce concile promulgue une des premières de ses constitutions, intitulée Sacrosanctum Concilium, qui n'est rien, le Saint Concile, si vous voulez, qui est la qu'on appelle aussi la constitution sur la liturgie. La constitution sur la liturgie. Je vous fais remarquer, vous l'avez peut-être déjà appris, mais je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, tous les documents des conciles ont été écrits en latin, puis traduits dans les langues vernaculaires, naturellement, mais sont toujours nommés par le commencement de leur texte. Et donc, ça veut dire que cette constitution commence par le latin, Sacrosanctum Concilium, etc., etc. Eh bien, cette constitution sur la liturgie est le point de départ de la réforme liturgique. Pourquoi ? Je vais donner quelques exemples, parce qu'il se présente comme une sorte de texte-programme, voyez, demandant que certains rites puissent être révisés. Par exemple, je vous lis ce qui concerne l'initiation. Je le prends de ce livre, vous voyez, donc Renouveau liturgique, document fondateur. Et on a la constitution sur la liturgie dans ce livre, et la constitution est numérotée, il y a différents numéros. Et le numéro 64 dit ceci, par exemple, je vous le lis pour que vous compreniez. On restaurera le catéchuménat des adultes comportant plusieurs étapes dont la mise en pratique dépendra du jugement de l'ordinaire du lieu. Et puis, un peu plus loin, numéro 66, on révisera le double rite pour le baptême des adultes, le plus simple, le plus solennel, en tenant compte pour ce dernier du catéchuménat restauré. Et puis, 67, on révisera le rite pour le baptême des enfants et on l'adaptera à la situation réelle des tout-petits. On mettra en lumière dans le rite lui-même le rôle des parents, etc. Et puis, un peu plus loin, 71, le rite de la confirmation sera révisé de son côté pour faire ressortir plus clairement le lien intime de ce sacrement, donc de la confirmation, avec toute l'initiation chrétienne. Donc, vous voyez, le style de cette constitution sur la liturgie est celui-ci. Je vous disais, une sorte de texte-programme qui essaye d'inviter l'Église, notamment ceux qui travaillent à cela, à réviser les rituels issus du Concile de Trente. Donc, en vérité, il ne s'agira plus seulement de les réviser, certains seront réécrits, la plupart sont tous réécrits en général. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on le dit dans une constitution que le lendemain, on a des rituels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 63, le Concile constitue des groupes de travail qui prennent en compte les différents domaines de la liturgie. Un groupe de travail se penchera sur le baptême des adultes, un autre groupe du travail se penchera sur le baptême des enfants, un autre sur la confirmation, un autre sur la messe, un autre sur le livre qui contient les lectures de la messe, un autre sur le mariage, un autre sur l'onction des malades. Vous voyez, chaque groupe avait une tâche spécifique. Et ces groupes sont des groupes constitués de manière internationale. Et donc, ce sont assez souvent des chercheurs de différentes églises, catholiques naturellement, mais de différentes langues, qui se réunissent pour traiter une même question et réviser un même texte. Donc, ces groupes de travail vont peu à peu fournir un rituel concernant ce qu'ils travaillaient comme étant ce qu'on appelle l'édition typique. Qu'est-ce que ça veut dire un rituel en édition typique? Ça veut dire que c'est le modèle pour tous les autres rituels. Et ce premier rituel, tous les premiers rituels sont écrits en latin. Donc, ça c'était la première phase de travail, rédiger des rituels en latin, qui est la langue de l'Église catholique romaine, la langue liturgique. Et donc, la deuxième phase sera celle d'envoyer, l'Église catholique envoie ces rituels en latin aux conférences épiscopales. Qui, elles, vont mettre en marche, vont constituer des groupes de travail qui vont traduire les rituels latins en langue vernaculaire. Et donc, par des échanges entre ces groupes et Rome, le rituel va avoir un moment précis, je vous montrerai tout à l'heure, une édition définitive. Mais je reviens juste d'un écran. Dans cette première partie du travail, de la rédaction d'un rituel latin, il faut penser que celui qui veillait au bon déroulement des travaux était le pape lui-même. À une époque précise, c'est Paul VI, n'est-ce pas? Paul VI était le dernier qui disait on peut éditer ou ne pas éditer. Donc, c'est souvent le groupe de travail envoyait son travail au pape. Le pape lisait la première, deuxième, troisième mouture du rituel. Il a renvoyé au groupe qui a procédé pour la rédaction du rituel. C'est pareil pour la deuxième phase de travail, c'est-à-dire que les groupes de travail constitués par les conférences épiscopales vont envoyer à Rome le travail de traduction et d'adaptation d'un rituel du latin en français, par exemple, mais ça ne se fait pas tout de suite. Il faut plusieurs envois et plusieurs retours. Retenez ce mécanisme parce que ce sera fait pour chaque rituel, pour chaque livre liturgique. Ce qui fait que vous allez comprendre mieux les dates que je vous ai mises ici. Pour le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, l'édition typique latine a été écrite en 72. Le concile est terminé en 64, en 65, je vous fais remarquer. Le rituel est en 72. Mais il faut attendre 96 pour qu'il y ait la l'édition française définitive, l'édition que vous voyez ici. Alors, à ce soir, on me dit, mais alors, qu'est-ce qu'on faisait entre 72 et 96? On baptisait les adultes, mais on les baptisait à travers ou par un rituel provisoire. Provisoire. Le définitif est bien celui édité en 96. C'est pareil pour le rituel du baptême des petits-enfants. L'édition typique a été, en latin, a été écrite en 69, mais il faut attendre 84 pour aller, pour avoir la définition définitive du texte français. Du texte français. Entre-temps, entre 69 et 84, on avait un rituel provisoire. Et pour la confirmation, on a en 71 le rituel latin, et en 76 seulement, on a l'édition française. C'est plus rapproché que les autres rituels. Donc, à chaque fois, pensez à ce mécanisme de travail. Alors, comment comprendre, comment lire ce type de travail qui peut nous surprendre vu l'espace de temps pour avoir un rituel définitif? C'est que le travail d'une réforme liturgique comme celle de l'Église romaine demande pas seulement le fait d'imposer des rituels, mais demande une réception dans les églises locales du rituel. Donc, c'est le temps de la réception. Et puis, comment dire, du dialogue avec l'Église mère, qui est l'Église de Rome, et qui permet d'ajuster ou non les traductions, les expressions, certaines adaptations. Hein. Ce qui fait, on me posait la question, vos collègues de l'après-midi me posaient la question, mais est-ce que, par exemple, un rituel allemand peut changer de l'initiation chrétienne des adultes, peut changer par rapport au rituel français? Eh bien oui, souvent on peut remarquer que suivant la langue qui traduit un rituel du latin en sa langue vernaculaire, il peut y avoir des adaptations propres à la culture d'une langue. Voilà, donc ça c'est important de lire. Tout ce que je viens de vous dire restera pour tous les autres rituels. Je ne vais pas le répéter. Hein. Donc vous avez compris, j'espère, quel a été le mécanisme de la mise en œuvre des différents rituels dont nous nous servons, qui nous servent aujourd'hui pour célébrer les sacrements. Autre chose importante à vous dire, et qui est une nouveauté de ce rituel issu du Concile Vatican II, c'est que chaque rituel comporte des notes doctrinales et pastorales. C'est celle que je vous ai envoyée et qu'on travaillera ensemble tout de suite là. Ces notes doctrinales, on les appelle, et là c'est une petite erreur de ma part, on les appelle en latin prenotanda. Alors j'essaie de vous montrer. Donc le mot prenotanda en latin, c'est à nouveau fait de deux mots, prenotanda, qui veut dire à regarder, à observer, à noter avant, prêt, à noter avant, donc à lire avant. Effectivement, ces notes doctrinales et pastorales sont toutes, sont toujours dans les rituels mis en entrée de jeu au début du rituel, et après vont suivre toutes les indications de la célébration à proprement parler. Qu'est-ce que ça veut dire, là, tout ce qui concerne la célébration? Ça veut dire l'ordre de la célébration, qui fait quoi, qui dit quoi, qu'est-ce qu'on dit, les prières qui sont dites, les dialogues avec l'assemblée, le rituel, voilà, tout ce qui concerne le rituel. Et donc, nous allons travailler le rituel à partir de ce soir, hein, et puis les autres fois aussi, par rapport au rituel, à partir des rituels. Sachez que c'est très important. On dit toujours que les notes doctrinales et pastorales, s'il fallait comprendre qu'est-ce que c'est un sacrement, il fallait regarder les notes doctrinales et pastorales. Elles sont vraiment des lieux théologiques très importants. Et donc, nous allons ce soir, parce que cet après-midi, nous sommes arrivés ici, hein, en vérité. Donc, la prochaine fois, on commencera par le rituel du baptême des petits-enfants. Sachez qu'on va tuiler un peu le cours entre l'initiation, l'Eucharistie, voilà, n'importe, mais nous sommes toujours dans la même ambiance des rituels de l'initiation. Mais donc, on va regarder tout de suite les notes doctrinales et pastorales, qui sont donc, qui ne sont pas là, mais qui sont ici. Voilà. Voilà. Notes, sont celles que je vous ai envoyées, et sont tirées de ce rituel. Et nous avons là, voilà, un peu pour vous montrer quelles sont les caractéristiques de ce sacrement. Je vous fais remarquer tout de suite, c'est important, généralement quand on lit ces notes, les notes, c'est comme ça qu'on a voulu les rédiger, sont numérotées. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que si vous voulez reprendre calmement ces notes pour les lire vous-même, moi j'espère que, voilà, si vous voulez les reprendre, je vous ai indiqué dans le plan, 1, 2, 3, 6, comment on peut comprendre où sont ces notes. Voilà, on parle de la ligne B, c'est la note 3, 6, et ainsi de suite. Donc, on commence par le numéro 1 qui est très important. C'est une note, c'est un chapeau qui introduit à la compréhension des sacrements de l'initiation. Là où on dit, par les sacrements de l'initiation chrétienne, les hommes délivrés de la puissance des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, reçoivent l'esprit d'adoption des fils et célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Vous voyez bien que on parle des sacrements de l'initiation chrétienne. Nous avons parlé de cette notion la dernière fois. On l'appelle au pluriel. En vérité, certains théologiens, comme Louis-Marie Chauvet, par exemple, théologien français, dit qu'on pourrait définir les trois sacrements de l'initiation chrétienne comme un seul sacrement, parce qu'ils font entrer dans la vie divine, dans la vie chrétienne, justement. Et donc, vous voyez que le texte dit, ces sacrements, qu'est-ce qu'ils font? Ils délivrent les hommes et les femmes de la puissance des ténèbres. Et puis, ils déclinent de manière, en paraphrasant les différents sacrements, vous reconnaissez dans l'expression « mort avec le Christ, enseveli avec lui, ressuscité avec lui », le baptême, n'est-ce pas? Reçoivent l'esprit d'adoption des fils, c'est la confirmation. Et célèbre avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection, c'est l'Eucharistie. Donc, ces trois sacrements nous font, on pourrait paraphraser cela, nous font entrer dans la Trinité. La Trinité habite celui qui reçoit ces sacrements. Et après, on décline justement, donc c'est l'initiation, hein, qui se décline en trois sacrements, en trois gestes en vérité. Hein. Pensez eau, huile, pain et vin. Ce sont de la matière qui nous rattache à la création, au travail des hommes et des femmes. Hein. Et donc, on dit bien que le baptême nous fait devenir un seul corps dans le Christ pour former le peuple de Dieu. La confirmation nous marque du don de l'Esprit et on est configuré pleinement au Seigneur. Donc, vous voyez, il y a cette idée que le baptême déjà nous donne l'Esprit, mais la confirmation nous configure pleinement. Voilà, il achève quelque part le don de l'Esprit reçu au baptême. Et dans l'assemblée eucharistique, on mange la chair et on boit le sang du Christ pour avoir la vie éternel et manifester l'unité du peuple de Dieu. Là, nous trouvons l'ordre des sacrements de l'initiation selon leurs propres caractéristiques, la grâce qu'ils apportent de manière particulière. Et puis le texte, justement, l'autre partie, sont les numéros 3 ou 6, où on parle de la dignité du baptême. On se concentre sur le baptême. Et là, effectivement, on commence à montrer que le baptême est la porte de la vie et du royaume. Rappelons-nous Jésus, hein, nous l'avons entendu ce jour-ci dans les évangiles, hein, convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. Hein. Donc la conversion que le baptême met en œuvre est une sorte de porte de la vie du royaume. Le premier sacrement de la loi nouvelle, c'est de l'évangile, ce n'est pas un sacrement de l'Ancien Testament. Hein, voilà. Et puis, on le nomme de manière différente, de différentes manières. Il est le sacrement de la foi. C'est une expression qui vient de Saint Augustin. Hein, donc, il est d'abord sacrement de cette foi par laquelle les hommes, éclairés par la grâce du Saint-Esprit, répondent à l'évangile du Christ. Je vous parlais de cet appel et réponse que Dieu met en œuvre avec l'humanité tout entière, et les sacrements le mettent en œuvre en particulier. Il est une entrée dans l'Église universelle, hein, dans la mesure où il incorpore les hommes à l'Église et les fait devenir une demeure du Dieu dans l'Esprit. Et puis, encore, il faut naître à la vie de Dieu. Là, nous avons deux expressions propres à la théologie la plus ancienne du christianisme, c'est celle de l'évangile de Jean. Hein. Renaître de nouveau, renaître d'en haut, dit Jésus à Nicodème. Le baptême est une naissance à la vie de Dieu et il nous fait participer à la mort et à la résurrection du Christ. Après, il va nous parler des fonctions et des ministères. Et je voudrais vous rendre attentif à quelque chose de très important. Vous avez travaillé l'ecclésiologie il y a quelques mois, n'est-ce pas? Et vous avez surtout entendu dire, on vous a sûrement dit, on vous a appris, que le Concile Vatican II a opéré une sorte de révolution copernicienne. C'est-à-dire que il a quelque part renversé une pyramide qui existait avant, qui concevait une sorte de hiérarchie, commençant par le pape, descendant jusqu'au peuple de Dieu, jusqu'aux fidèles. Eh bien, vous voyez que dans ce rituel, on a fait ce renversement. Quand on parle des fonctions des ministères, on ne parle pas des évêques. On ne commence pas par parler des évêques. On commence par parler du peuple de Dieu. Et il y a cette phrase extraordinaire qui devrait nous faire donner à réfléchir. Hein. C'est au peuple de Dieu, c'est-à-dire à l'Église qui transmet et nourrit la foi reçue des apôtres, que revient en premier lieu le soin de préparer au baptême et de former les chrétiens. Vous voyez, c'est le peuple de Dieu qui a cette responsabilité. Naturellement, quand nous disons le peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu, il y a aussi les ministres, mais c'est le peuple de Dieu tout entier. Hein. Et donc, on commence par le peuple de Dieu. Et donc, vous voyez, il décline ce peuple de Dieu. Il parle de catéchistes, d'autres laïcs qui collaborent avec les prêtres et les diacres. Il parle des amis, des familiers, des voisins, de quelques membres de l'Église locale. Et donc, de manière à exprimer la joie commune avec laquelle les nouveautés sont reçues dans l'Église. Vous voyez, la ritualité du baptême doit manifester cette Église qui se rassemble, voyez. Et donc, c'est cette Église qui est la première responsable. Et puis, on passe, toujours dans une sorte d'ordre d'importance, aux parrains et aux marraines. Aux parrains et aux marraines, vous pourrez le lire ce qu'ils disent de ça. Et enfin, les ministres, dont Béatrice avait posé cette question, voyez. Les ministres ordinaires du baptême sont l'évêque, le prêtre et le diacre. En toute célébration, ça, ils se souviendront que leur action s'accomplit dans l'Église. C'est très important. Ils ne possèdent pas ce pouvoir. Ils mettent en service leur ministère. C'est autre chose. Vous voyez, on reviendra quand on parlera de l'ordre. On décline ce que les évêques font, ce que les pasteurs font, les autres prêtres, les diacres. Et puis, regardez ce numéro, ce soir, on nous interroge. Hein. En l'absence d'un prêtre, d'un diacre, s'il y a péril de mort, et surtout si la mort paraît imminente, tout fidèle, et même toute personne, c'est même un infidèle, du coup, personne animée de l'intention requise pour un tel acte a le pouvoir et parfois le devoir de conférer le baptême. Ça, c'est vieux comme les pratiques baptismales depuis l'Église ancienne. L'importance de pouvoir... Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Mais sachez qu'il y a cette possibilité qu'un laïc puisse être appelé à baptiser quelqu'un en cas de péril de mort. Et puis ce numéro magnifique aussi, tous les laïcs, membres du peuple sacerdotal, mais surtout les parents, en raison de leur fonction, les catéchistes, les sages-femmes, les assistantes familiales, les aides sociales, les infirmières, les médecins, les chirurgiens, auront à cœur de connaître, selon leur capacité, la manière correcte de baptiser en cas de nécessité. Vous voyez, vraiment, c'est ouvert à toutes sortes de perceptions de ce ministère. Je passerai maintenant à la célébration. Donc, à la célébration du baptême que j'essayais de résumer dans ce tableau que j'appelais le RICA. Je dis toujours en souriant, ce n'est pas la marque d'un café décaféiné, RICA. C'est rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc, le RICA est son ordre rituel, parce qu'il y a un ordre pour célébrer le baptême. Tout sacrement a toujours un ordre. Et vous remarquerez d'emblée que cet ordre alterne des temps et des étapes. Étape, temps, étape, temps, étape, temps. Et donc, le processus d'initiation est fait dans le temps. Dans un temps long, le baptême n'est pas donné d'un coup, si je peux dire, excuse-moi l'expression, mais il faut du temps pour accéder au baptême, pour être initié à la vie divine. Un peu comme on pourrait faire la comparaison avec un enfant. Un enfant ne sort pas d'un coup du ventre de sa mère, il faut attendre 9 mois avant de le donner au monde. Eh bien, c'est pareil pour un chrétien, pour un fidèle. Et vous verrez que, je vous fais remarquer, le temps est toujours long, l'étape est toujours ponctuelle. Elle est vécue un jour précis, à une heure précise, et après on ne la fait plus cette étape. Une fois qu'on l'a faite, on l'a faite. Par contre, le temps est vécu longuement. Et par exemple, le temps de la première, ce qu'on appelle le temps de la première, est le temps dans lequel celui qui peut-être a rencontré un chrétien, a rentré dans une église, a été bien accueilli dans une paroisse, dit « Ah tiens, c'est pas mal, j'aimerais bien devenir chrétien. » Eh bien, le rituel dit bien qu'il faut l'accueillir, mais sans un rite particulier. C'est très intéressant ça, parce que tant qu'il n'a pas, lui, dans la liberté, choisi de rentrer dans une démarche d'initiation, on ne peut pas lui faire faire des gestes chrétiens qui pourraient être limiter sa liberté, voyez, ou induire en erreur sa liberté. Et donc, la première vraie moment dans lequel on a un rite, c'est la première étape, la célébration de l'entrée en catéchuménat. Et vous voyez bien que d'emblée, on met en œuvre un dialogue. Je disais, le dialogue est la base de tout sacrement. Donc, d'abord, on s'adresse à quelqu'un, on parle à quelqu'un, et que ce quelqu'un nous répond. Il y a une adhésion initiale, excusez-moi. On signe d'emblée le front et l'essence de celui qui doit devenir catéchumène. On entre physiquement dans l'Église, parce que tous ces rites de l'assignation, de l'adhésion, se font à l'extérieur de l'Église, à la porte de l'Église. On entre de l'Église, même rituellement, on dit l'incorporation dans l'Église. On a une liturgie de la parole, une remise du livre des Évangiles qui va accompagner tout le chemin du catéchumène. On fait une prière sur les catéchumènes, on conclut par une prière et on les renvoie. Si jamais il y a une célébration de l'Eucharistie, un peu comme on faisait dans le rituel dit, comme on faisait à l'époque ancienne, on l'a vu tout à l'heure. Après être rentré en catéchuménat, le catéchumène vit un temps qu'on appelle du catéchuménat. Il est catéchumène. Ce temps peut durer un an, parfois deux ans, pas plus de trois ans, disons, on essaye de... Comment dire, ça ne dépend pas, il n'y a pas un programme précis. C'est dans l'évolution de la conversion et du désir de la personne que le temps... c'est la personne qui commande le temps, c'est ça que je veux dire. Hein. Et donc, ce temps est marqué par des célébrations de la parole de Dieu, les premiers exorcismes accompagnés de bénédictions et des rites d'onction, tels que nous les avons vus dans la tradition ancienne. Et le temps du catéchuménat aboutit, on pourrait dire, fait passer le témoin à la deuxième étape qu'on appelle de l'appel décisif, de l'inscription du nom. Et c'est là que cette étape est vécue pratiquement toujours le premier dimanche du carême. Nous rentrons là, l'initiation croise le temps liturgique. Hein? C'est-à-dire que on fait vivre aux catéchumènes le temps liturgique de carême et de Pâques comme s'ils participaient à la mort et à la résurrection du Christ par le temps liturgique qui est vécu par l'Église. Et donc cette étape à nouveau, vous voyez, on appelle par son propre nom le catéchumène, on l'interroge, on inscrit son nom sur un registre pour qu'il soit, pour qu'on marque qu'il va être baptisé, on l'admet, on prie, on prie pour lui et on le renvoie s'il y a célébration de l'Eucharistie. Et donc, c'est le temps du carême qui va être défini comme le temps de purification, d'illumination, temps qui est marqué par, nous l'avons vu, les scrutins. On l'a retrouvé encore aujourd'hui, le troisième, quatrième et cinquième dimanche de carême, centré sur les évangiles de Jean, la Samaritaine, l'aveugle-né, Lazare. Hein. Ce sont des évangiles qui sont lus au cours de l'Eucharistie, mais qui font faire l'expérience au catéchumène d'être lui-même la Samaritaine, d'être lui-même l'aveugle-né, d'être lui-même Lazare, d'être quelqu'un qui désire le Christ, qui désire, qui a soif de lui, qui a besoin de le voir, qui doit être ressuscité avec lui, vous voyez. Donc il y a cette initiation très importante. Et puis, ce qu'on appelle les traditions, on en a parlé, du symbole de la prière, donc de notre Père, et puis d'autres rites qu'on a déjà vus dans l'Église ancienne, la reddition du symbole, les fêtas et l'onction des catéchumènes. Et puis, troisième étape, la célébration du baptême avec la célébration, les autres célébrations de la confirmation et de l'Eucharistie. Le processus d'initiation se termine, selon le rituel, par le temps de la mystagogie. Et le temps de la mystagogie, est-ce qu'on en a déjà parlé? Peut-être que non. Mystagogie, vous voyez, mystagogie.
Il y en a parlé tout à l'heure.
Voilà, vient de la parole must, mystère, agogia, conduire au mystère, introduire dans le mystère. Et donc ce temps est le temps dans lequel, pendant tout le temps pascal, pendant les messes du dimanche, on initie les néophytes, les fidèles, devenus fidèles, à la vie chrétienne telle qu'ils l'ont reçue par les sacrements du baptême. Vous voyez bien, je vous ai mis tout à fait à droite les appellations que l'on fait des catéchumènes qui se transforment au fur et à mesure qu'ils avancent vers le baptême. Hein. Ce sont d'abord des candidats, des sympathisants, puis catéchumènes, puis des élus, ou de ceux qui doivent être illuminés, ou encore des néophytes. Hein, voilà, quand ils reçoivent le baptême, on pourrait mettre là des fidèles. Donc, il y a une sorte de transformation dans la vie du Christ lui-même. Voilà tout ce que je voulais vous dire ce soir, c'est déjà pas mal. Hein. Et donc, voyez bien, j'insiste beaucoup, c'est ce rituel qui est théologiquement le modèle de toute initiation. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des adultes qui peuvent parler naturellement, peuvent répondre à ce que on leur propose, on leur demande. Donc, ils sont entièrement libres d'adhérer à la vie de Dieu. Nous verrons que pour le rituel du baptême, il faut pas prendre des précautions, mais il faut interpréter théologiquement cela. Ce ne sont pas les enfants directement qui répondent, mais ce sont les parents pour eux qui répondent. On y reviendra la prochaine fois. Nous parlerons du baptême des petits-enfants, du rituel du baptême des petits-enfants et du rituel de la confirmation, qui sont les deux autres rituels de l'initiation. Est-ce que vous avez... Non, faisons comme ça, je vous propose. Gardez les questions pour la prochaine fois, ou bien vous me les écrivez, ou vous me les dites en commençant la fois prochaine, et nous, j'y répondrai la prochaine fois. Je vous remercie pour avoir été présent ce soir, et je vous souhaite une belle semaine.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Bonne semaine à vous. Merci.
À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
Et à bientôt.
Merci et bonne semaine.